Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Vous n'imaginez pas, vous qui nous écoutez confortablement assis au volant de votre voiture, derrière votre bureau, votre établi, votre comptoir, votre caisse, votre tracteur, vos dossiers, votre bétail, ou bien dans ce casque qui vous isole pour quelques instants du monde extérieur, où je vous rassure, c'est toujours le même boxon, hein, puisqu'il n'est question que des deux psychos qui se sont serrés la louche à Séoul, du bateau de migrants à la dérive, de football, et du fils du fantôme de la revanche du retour de Romy Schneider. Non, vous n'imaginez pas, amis auditeurs, l'agitation en coulisses qui précède le moment où nous prenons l'antenne. Car avant que vous n'entendiez résonner ces mots devenus légendes, « Popopienne, popopien » et tous les autres aussi, prononcés de cette voix suave comme un châle en pachemina, profonde comme le gouffre de Padirac et plus sensuelle que l'intégrale de Katsuni, notre invité de la semaine dernière, eh bien juste avant, je peux vous dire que c'est la panique totale. Attachée de prod en roue libre, réalisatrice en hyperventilation à cause d'une répétition écourtée, ingénieur du son prêt à collapser, les doigts tremblants sur des potentiomètres humides de transpiration, rédacteur en chef surstressé, collé au mur par l'excès de caféine, ma petite Charline contrainte d'attaquer ses ongles de pied après avoir dévoré ceux de ses mains. Oui, je vous le dis comme je le pense, vous gagnez à vous passer de l'image. Point commun avec notre invité, un illustre photographe qui préfère désormais le poids des mots au choc des photos. Pop, 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 c'est parti.
France Inter.
Pop, pop, pop.
Antoine de Caunes.
Au menu de Pop, 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 celui qui a photographié toute la planète pop pendant 26 ans avant de faire la dernière photo, titre du livre qu'il publie chez Jean-Claude Lattès et dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour Franck Courtès.
Bonjour Antoine, bonjour Charline.
Bonjour.
Toi, quand je t'ai vu, je me suis dit, pourquoi pas vivre tout nu ? Alors, non, c'est pas à vous que je parle, Franck Courtès, ce sont les paroles d'une des chansons de Miel de Montagne. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit avant. Miel de Montagne qui sera en live tout à l'heure dans la cave de l'émission. Voilà pour le menu, mais restons habillés pour l'instant. En attendant, je laisse à un autre photographe pop le soin de lancer cette émission.
Bonsoir, c'est Jean-Baptiste Mondino et vous écoutez Hip Hop Pop Pop.
Hip Hop Pop Pop. Alors après avoir réarmé mon appareil jetable, c'est parti. Voilà. Franck Courtès, ici, il existe une question encore plus surprenante que de voir une photo de Kim Kardashian habillée. Et cette question, c'est... Franck Courtès, pour vous, c'est quoi la pop culture ?
15 jours que je gamberge.
Ah ben, on va voir ce que ça donne.
Alors voilà, très, très académique. Hein. Enfin, j'en ai deux. J'ai la mienne et puis j'ai celle d'une copine que j'aime beaucoup, mais que pas à moi. Alors,
il faudra lui rendre.
Voilà, je lui rendrai. La mienne, ça serait plutôt la rencontre d'une culture avec la consommation de masse. Voilà.
C'est parfait. Voilà. Ah oui, c'est sobre et efficace. Très bien. Ouais. Et la copine ?
Et ma copine, elle m'a dit, c'est le côté fluo de la force.
Ah, c'est bien aussi.
Et j'adore.
Moi, j'aime bien, ouais. Le côté fluo de la
Marion.
Force, c'est très bien.
Non, mais les deux sont tout à fait compatibles, en fait. Je dirais même que les deux ensemble font une définition presque idéale.
Mm-hmm.
On valide ?
On valide.
On valide. Alors, c'est parti. Franck Courtès, on parle de pop, de culture et de pop culture dans la suite de Pop Pop Pop. Vous pouvez respirer, le plus dur est passé. Juste après, une pépite pop anglaise signée Rex Orange County. Et le morceau, c'est Loving is Easy. Enfin, c'est ce qu'ils disent.
Oh, can't even hide it. And it didn't take forever to find it. I was all on my own, almost glad to be alone until love came in on time. Oh, on time. Loving is easy. You had me fucked up. It used to be so hard to see. Yeah, loving is easy when everything's perfect. Please don't change a single little thing for me.
Loving is easy, un morceau du jeune anglais Clément O'Connor, alias Rex Orange County. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes donc aujourd'hui en compagnie de celui qui a shooté pendant 26 ans toute la planète pop, Franck Courtès. Mais qui est-il? Alors réponse avec un portrait que vous ne tirerez pas pour une fois. Oui, oui, alors juste pour info, Franck Courtès, un pop portrait, c'est votre portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Alors je sais, c'est NTM, c'est pas votre meilleur souvenir.
Enfin... Ah non, 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 NTM, j'adore.
Oh, c'est Joe Esther, alors oui. On en reparlera dans quelques instants. Et c'est Charline Roux qui s'y colle.
Aujourd'hui, nous accueillons un invité qui a la trajectoire inverse de celle d'un, une Instagrammeur, Instagrammeuse compulsif, c'est-à-dire que plutôt que d'appuyer à répétition sur l'appareil pour partager sa bouffe, un selfie, ses pieds, un selfie, un gâteau, un selfie, oh la pluie, un selfie, enfin bref, vous avez compris l'idée, il a rangé l'appareil et plutôt que de partager des photos, il partage des mots. Précisons quand même que la photo telle que notre invité l'a pratiquée n'avait rien à voir avec les exemples précédemment énoncés. Portraitiste et reporter, entre autres, pour Les Inrocks, Libération, Télérama, Le Monde, L'Optimum, il immortalise entre autres toujours des Brian Molko, Benjamin Biolay, Tom Hanks, Michel Serrault, Patrick Vieira, Jean Rochefort et même comment il s'appelle, ça m'échappe à chaque fois, Antoine Decaune, voilà, ah, c'est remarquable. Ça c'est lui. Ce qui est quand même plus passionnant qu'un selfie de Kim K ou le plateau repas à la cantine de notre stagiaire Simon A en mode foodista. Bref, le monde de l'image c'était avant, place maintenant à celui des mots et Franck Courtès explique pourquoi dans la dernière photo, son quatrième livre chez Jean-Claude Lattès.
Pas besoin de lumière rouge pour fixer ce portrait, Franck Courtès.
Ah non, je valide.
On le valide.
Ça m'arrange. Ouais, très beau.
Très bien. Franck Courtès, on imagine désormais la galerie de portraits qui trône dans votre salon. En revanche, on ne sait pas ce que contient votre bibliothèque, ni votre discothèque, et encore moins votre DVTech. Passons donc à votre pop list. Nous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série. On va commencer par le livre. Vous avez choisi « Cœur et visage », écrit par Emmanuel Bove en 1928. Un livre qui retrace l'histoire d'André Poitou, un marchand de chaussures qui réussit à décrocher la Légion d'honneur et célèbre l'événement lors d'un banquet de 150 convives. Alors, à mon grand désespoir, aucun booktuber n'a lu ce livre sur YouTube. Est-ce que vous pouvez nous en lire un extrait, Franck Courtès, avant de nous dire pourquoi vous aimez tant ce livre ?
Alors, il y avait dans la salle du banquet une centaine de convives. Un murmure confus emplissait la longue galerie. Personne ne s'était encore assis. À la lumière crue qui tombait des lustres, on apercevait tous les visages épanouis. Le moment qui précède les fêtes ou les réjouissances est empreint d'une atmosphère étrange. Il semble qu'une sorte de trêve unisse les hommes. L'énergumène qui eût rompu cette paix eût été accueilli avec un mépris derrière lequel on eût découvert la constatation que dès que les hommes sont groupés, il s'en trouve toujours pour compromettre, pour commettre une incorrection.
Qu'est-ce qui vous plaît tellement chez Emmanuel Bove alors ?
C'est d'abord la... Enfin, particulièrement ce livre, c'est uniquement une description de portraits en fait. Ce sont des portraits littéraires.
On y revient.
Donc ben voilà, moi ça m'aide. Enfin, je l'ai lu récemment, hein, donc ça ne m'a pas aidé sur les précédents livres, mais en tout cas ça nourrit en ce moment beaucoup mon prochain livre. Et puis la langue, quoi. C'est une langue qu'on n'entend plus depuis 100 ans, quoi. Et d'ailleurs, on me le reproche parfois d'écrire un petit peu de cette manière avec des passés simples, des subjonctifs passés qu'on me fait supprimer régulièrement. Et moi, en fait, j'adore ça. On reproche un peu d'écrire comme Proust par moment. Donc,
Écoutez, si c'est le seul reproche qu'on vous fait.
Ouais, mais c'est très dur à vivre. Parce que on...
C'est-à-dire d'être à l'ancienne, d'être attaché à un style qu'on considère comme désuet aujourd'hui.
Désuet, oui. Alors que bon, le nouveau roman est aussi, à mon avis, désuet. Hein. Mm-hmm. Il a quand même plus de 60 ans aussi.
Il est même obsolète.
Ouais. Mm. Mais non, mais je trouve que Bove a un côté comme ça, proustien, mais qui n'aurait pas réussi, une espèce de destin. Mmh. Voilà, c'est un magnifique loser. Moi, j'adore. Je connaissais pas. J'ai découvert super tard. Quand je vous ai donné vous avez galéré pour trouver le texte aussi, hein, je crois.
Non, pas du tout. On a tous sous la main à Radio France.
Mais voilà, les gens qui écrivent comme Proust en général sont mal aimés en ce moment. Il faut faire un coming out.
Oui, ça reviendra. C'est cyclique, la littérature. Bien. Alors, on a un livre. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faudrait? Ben, il me faudrait une série. Et pour la série, vous avez choisi ceci. Eh oui, les trompettes de Kaamelott, la série d'Alexandre Astier diffusée entre 2005 et 2009 sur M6. Alors, vous n'êtes pas le premier à citer Kaamelott ici, mais je ne résiste pas à l'envie d'écouter un extrait.
Qu'est-ce que c'est que cette lubie de vous faire construire une table?
D'autant qu'il y en a déjà une dans la salle à manger.
Là, c'est une table ronde pour que les chevaliers de Bretagne se réunissent autour. De toute façon, autant vous y faire, parce qu'à partir de maintenant, on va s'appeler les chevaliers de la table ronde.
Les chevaliers de la table ronde?
Encore une chance qu'on ne soit pas fait construire un buffet à vaisselle. Hein.
Alors, on est loin d'Emmanuel Bove, là, disons-le simplement. Qu'est-ce qui vous plaît tellement dans l'univers d'Alexandre Astier? Dont nous raffolons ici, hein, je vous le dis tout de suite.
C'est vrai? Oui. Vous connaissez?
Oui. On adore.
Il a tourné dans Kaamelott.
Bah, je sais. D'ailleurs, je suis à la table ronde avec le seigneur d'Agonais, quand même.
Bien, oui, enfin, elle n'est pas tout à fait ronde. Vous remarquerez qu'il manque des bouts.
Puis en plus, il y a une femme. Non, normalement, oui, c'est pas accepté.
Non, ça, c'est pas tout à fait normal.
C'est moderne.
Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous plaît tant chez Astier?
C'est au-delà du rire, c'est la satire de l'époque. C'est l'équivalent de Goscinny. Goscinny a décrit la France de Gaulle dans les années 60-70. Et Kaamelott, c'est notre époque actuelle des années 2000, quoi. Ça parle pas que de la légende d'Arthur, ça parle du milieu de l'entreprise, de la famille, de l'amitié, et même de la métaphysique, le couple. Tout, c'est incroyable. Moi, je passe pas une journée sans faire une citation de Kaamelott avec ma copine, qui elle est fan de Goscinny, donc qui fait des citations de Astérix.
Ah bah, ça doit être sympa chez vous.
Voilà. Donc, quand on se retrouve et qu'on se fait un battle de Goscinny Astier, c'est qu'on est de bonne humeur.
Bon.
Je le précise parce qu'ils sont passés par cette émission, et c'est que deux invités qu'on a adorés, Alain Chabat et Alexandre Astier. Alexandre Astier sera ce soir l'invité du Burger Quiz d'Alain Chabat sur TMC.
Merci de nous le rappeler, ma chère Charline. Pour le film J'en fourche ma veste pas, car vous choisissez Journal intime, un film réalisé par Nanni Moretti en 1994.
Cos'è questo film? È la storia di un pasticcere troschista. Un pasticcere troschista nell'Italia degli anni 50. È un film musicale. Un musical.
Ma perché questo film è Frank Curles?
Wow! Ah, déjà, rien que d'entendre sa voix, moi, ça me... Enfin bon, la musicalité, tout, en fait.
Alors, c'est tout Nanni Moretti ou c'est ce film-là en particulier, Nanni Moretti?
Celui-là en particulier, parce que c'est une autobiographie, quoi, comme un recueil de nouvelles. Ce sont des petits films, en fait. Et je trouve ça super fort, ce qu'il a fait, quoi, réussir à parler de nous tous, quoi, à travers lui, quoi. Donc, c'est le propre des autobiographes, je trouve, c'est parler de soi sans parler de soi.
Hein. Vous êtes un homme d'image, vous aimez aussi le Nanni Moretti réalisateur,
ouais,
son travail sur le cadre, la lumière,
Oui. Surtout dans ce film-là, hein, ouais, beaucoup.
Bien. Je troque maintenant mon Vespa pour une Subaru surpimpée, car pour le jeu vidéo, vous choisissez ceci.
Left 3, overpressed, keep it, it's flat right, Titans 2, don't cut, keep it.
WRC, série de jeux de rallye automobile débutée en 2001. Est-ce que c'est pour calmer vos nerfs après avoir passé 12h50 dans les bouchons parisiens grâce à notre bien-aimée mère? Pourquoi ce jeu-là?
Parce que c'est le seul que je connaisse. C'est ce jeu. Enfin, quand on a offert une PlayStation à mon fils, c'est le seul que j'acceptais de jouer avec lui. Mm-hmm. Mais il me battait tout le temps. Au bout de 3 mois, il était à 9 ans, il me battait. Quoi. C'était insupportable.
Le jeu a disparu de la maison.
Non. J'ai continué à jouer pas mal. Mais je suis pas très jeu vidéo. Je suis désolé. Je suis pas très jeu. Moi, je suis plutôt de l'époque vélo, les genoux dans le gravier, emmerder les grenouilles avec une loupe.
Le Pérou un peu. Regarder les boutons, tout ça.
Okay. Mais bon, ça fait tard dans les crapauds.
Ça me fait un petit peu rire de voir tous ces pauvres gamins enfermés le cul dans le canapé. Je trouve qu'ils prennent un peu d'avance pour les hémorroïdes quand même.
On l'a tous fait, hein, le pétard dans le crapaud.
Oui.
Ah non, moi je ne fais pas le pétard.
Vous n'avez pas fait le pétard dans le crapaud?
Non, moi je l'ai cramé à la loupe.
Charline?
Oui, j'avoue.
c'est pas bien, on va avoir des problèmes. Mais bon, voilà, on n'a pas dit qu'il fallait le refaire.
C'est du passé, il y a prescription.
On avait 6 ans.
Et on les faisait cramer avec des loupes aussi.
Voilà, la loupe.
Vous faisiez ça ?
Oui.
Oh, c'est pas bien, n'écoutez pas les enfants. Bon, Franck Courtès, finissons cette pop list avec la chanson, si vous le voulez bien. Votre chanson à vous, c'est ça. Come on People du groupe Pulp, c'est un morceau de 95, extrait de l'album Different Class. Vous avez fait des shootings photos sur ce son, Franck Courtès ?
Non, jamais. Je ne les ai jamais photographiés. J'ai rencontré Jarvis Cocker plus tard parce que j'ai mis un extrait d'une de ses paroles dans mon premier recueil de nouvelles. Mm-hmm. Donc j'étais allé le voir et lui dire, quoi, j'étais super ému. Mais non, je n'ai jamais photographié, ce qui n'est pas plus mal parce que bon, il y a tellement de groupes que j'aimais et quand je les ai photographiés, ça ne s'est pas super bien passé. je ne dirai pas tous les noms. Pulp, en tout cas, je suis fan depuis, même avant 95, hein, depuis, je crois, c'est dans les années 90, ouais, tout début 90, quoi. Mm-hmm. Je suis hyper fan. Et je me souviens que c'était un pote des Inrock, un journaliste qui est maintenant au Monde, qui m'avait dit, écoute ça, c'est très littéraire, les textes sont super. Et moi, j'avais dit, ah ouais, c'est génial. Sauf qu'à l'époque, je bitais pas un mot d'anglais. mais c'était la musique. Moi, ça me parlait aux jambes. Lui, c'était au cerveau. Moi, c'était aux jambes, quoi. Et puis, maintenant, je peux pas l'entendre sans pleurer, quoi.
Richard Holly, par exemple, qui était dans Pulp à l'époque, c'est quelqu'un que vous auriez aimé photographier.
Ah, énormément. J'adore ce type.
Ben oui. Et là, il vous ferait pas reprendre l'appareil aujourd'hui, lui.
Ah, mais vous aurez tout le monde aura essayé. c'est terrible. Là, vous me prenez pas.
Oui, car Franck a abandonné la photo. Ouais, on va en parler. Ouais. Ça fait l'objet d'un livre dont il vient nous parler aujourd'hui. Bon, alors, où en sommes-nous avec cette pop list? Je résume Cœur et Visage, Kaamelott, Journal Intime, WRC et Pulp. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça donne ça.
Left three, overpress, keep it, it's flat right.
Sir Arthur a eu une révélation de la Dame du Lac.
Cos'è questo film? È la storia di un pasticcere.
Dès que les hommes sont groupés, ils s'en trouvent toujours pour compromettre, pour commettre une incorrection.
Autant vous y faire, parce qu'à partir de maintenant, on va s'appeler les chevaliers de la table ronde.
Un pasticcere trotskista nell'Italia degli anni 50. È un film musicale. Un musical.
Franck Courtès, c'est un peu le flipbook de votre vie ? Vous savez, les flipbooks, c'est les petits tas de feuilles avec des dessins qui s'animent lorsqu'on feuillette rapidement les pages.
C'est gentil de me traduire. non, mais en plus, c'est vrai.
Vous venez de me dire que vous ne parliez pas anglais.
Mais c'est vrai, en plus, je ne savais pas, j'étais emmerdé. Oui, un peu. Hein.
C'est un petit peu ça.
Oui, j'adore, c'est complètement improbable, mais c'est ça.
Ouais. Bien. Alors, Franck Courtès, nous allons rester dans votre univers avec un artiste que vous avez photographié. Il s'agit d'Iggy Pop et le morceau c'est I Gimme Danger, remixé par David Bowie. Écoutez ça.
Gimme danger, little stranger. I'll be you a piece. Give me danger, little stranger, and I'll be your disease. There's nothing in my dreams, just some ugly memories. Kiss me like the ocean breeze. Yeah.
Gimme Danger dans Pop 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 sur France Inter. C'est un morceau remixé par David Bowie d'un certain Iggy Pop passé devant votre objectif, Franck Courtès. Il était comment ce shooting? Il a fini par sortir sa zigounette comme il lui arrive de le faire parfois?
Non, c'est un type adorable. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré.
C'est pas compatible.
Mais il n'est pas du tout. Il fait pas le show devant les photographes. Il est au contraire très très doux avec thé au miel. Ça m'avait surpris.
Il réserve ça à la scène en fait.
Le
montrage de zigounette.
Donc bon souvenir.
Ouais, bien sûr.
Iggy, bon souvenir. Ouais. Franck Courtès, après 26 ans de photos, vous publiez la dernière photo chez Jean-Claude Lattès. Devant votre objectif, nous le disions, Iggy Pop, Joey Starr, mais également Jacques Demy, Michel Polnareff, Karim Benzema, Jacques Derrida, Pierre Bérégovoy, Patrick Modiano, Jean Rochefort, Nick Kev, Jean-Marie Le Pen, Philippe Catherine. Enfin bon, comme c'est impossible de tous les citer, je vous pose la question, quelle est la photo dont vous êtes le plus fier? Celle qui reste.
De portrait?
Ouais.
Oula. En portrait de commande, pratiquement aucune, je dirais. Plutôt la photo de mon fils. Mm-hmm. Donc voilà, un portrait de mon fils dont je suis le plus fier. C'est un portrait en contre-jour où il a un petit sourire et je sais pas, j'ai eu un flash, je me suis dit c'est terrible, je le verrai plus jamais comme il est en ce moment. Aussi, enfin voilà, il y a un truc qui va disparaître, qui va mourir, quoi. Et en même temps, ça m'a angoissé à mort, quoi.
Ça, c'est l'idée même de la photo.
Ouais.
C'est capter quelque chose qui ne se reproduira jamais.
Ouais. Et puis qui devient mort. C'est-à-dire, on fait que des photos de trucs morts, quoi. En fait, en tout cas, on fait un présent, mais quelques instants après, c'est quelque chose qui appartient au passé.
Ah, ça y est, je commence à comprendre pourquoi vous avez abandonné la photo.
Ouais.
Dans la dernière photo, vous racontez aussi les portraits que vous ne faites pas. Enfin, en tout cas, en photo. Racontez votre rencontre avec Arletty, par exemple. C'était un moyen de l'immortaliser autrement.
Non, je n'étais pas sûr de la photographier. Je débutais. Hein,
oui, c'est pour ça, en fait. Ouais, comme vous ne l'avez pas pris en photo, est-ce que raconter cette rencontre dans le livre, c'est aussi un autre moyen de faire passer cette rencontre à la postérité?
Oui, exactement. Ce n'était pas elle. Je voulais raconter comment moi, je m'étais formé à ce métier, comment j'étais tombé amoureux de ce métier. Parce que j'en dis beaucoup de mal depuis, mais à l'époque, c'était absolument extraordinaire. J'étais très timide, inculte. Et je me retrouve capable de sonner chez Arletty et de me retrouver accueilli. En plus, c'était une autre époque. Hein,
alors, mon petit gars.
On prendrait bien un petit biscuit. Et c'était tellement bien. Et c'était bien de ne pas faire de portrait, justement, de respecter. Parce que comme elle était aveugle, elle m'a dit « Non, mais on ne fait pas de photos. Non, ne faisons pas de photos. Ouais, je ne les verrai pas. »
Elle ne l'aurait pas vu.
Voilà, tout simplement. Mais ça apprend, ça. Le respect.
Alors, 26 ans derrière l'objectif, et puis vous avez fini par ranger vos appareils comme d'autres raccrochent les gants. Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle dans les milieux mafieux un repenti?
Non, je vis pas en résidence surveillée. je me suis pas fait d'inimitié, c'est même étonnant. J'ai l'impression même les photographes me remercient souvent. Pour avoir exprimé ce qu'ils ont vécu, la partie belle, la partie où je dis que c'est merveilleux, l'amour de la photo, ils l'ont ressenti évidemment. Hein. Et puis tous les déboires depuis, en fait, je me rends compte que je suis pas tout seul, quoi, qu'il y a une vraie crise dans ce milieu des photographes et qu'ils me remercient donc de l'avoir exprimé.
Vous dites déboire, mais le mot est faible comparativement à ceux que vous utilisez dans le livre. On peut d'ailleurs les lire en quatrième de coupe. Je vous cite, la photographie était ma raison d'être. J'étais photographe, j'ai été extrêmement photographe, passionnément photographe, hanté par la photographie. Mon amour immodéré s'est mué en une haine qui n'a d'égal que celle d'un amant trahi. Fin de citation. Le divorce à l'amiable, c'était impossible.
Ouais. Alors non, c'était pas possible. Non, mais c'est vrai que maintenant j'ai une espèce d'agacement, quoi. D'abord, j'ai presque plus de plaisir à voir les photos. Et puis je trouve qu'il y en a partout, il y en a trop, quoi. Enfin, il suffit d'aller dans n'importe quel parc aujourd'hui, les grilles sont envahies d'images. Je trouve ça très suspect, quoi. Une espèce d'occupation permanente de l'espace par des images, quoi. Comme si on voulait nous couper du réel.
Alors je reviens quand même au point de départ de ce livre. Pourquoi avoir renoncé à ce qui était, vous en parlez fort bien d'ailleurs, la passion de votre vie et là, et de votre vie et là, vous allez me dire, mais quoi, vous n'avez donc pas lu mon livre? Mais si, Franck, je l'ai lu votre livre, mais j'ai envie de vous entendre le dire, vous.
Ben, c'est multiple, c'est d'abord une espèce d'ennui, j'en avais marre de reproduire la même chose, qu'on m'envoie photographier des gens non plus pour essayer de trouver un truc un peu intéressant, mais juste pour vendre un produit. Parce que la photo, au début, était un petit peu marginale. dans les années 80. Enfin, il y avait elle a pris de l'importance. On s'est rendu compte que ça avait de l'importance, que ça faisait vendre, qu'on pouvait manipuler les opinions aussi. Et puis, de plus en plus, à chaque commande, on nous a réduit les temps de rencontre avec les gens, imposé des tas de contraintes pour contrôler. On a eu des agents images qui sont arrivés et qui ont commencé à apprivoiser notre métier à notre place, quoi. Et moi, je supportais plus. Moi, c'est un métier artistique. Je voulais bien le faire artisanal, enfin,
en fait,
pour la presse.
C'est le passage de l'artisanat à l'industriel qui vous a posé problème. Aussi.
Ouais, et puis l'impression d'être complice d'un truc où finalement j'avais aucun bénéfice, parce qu'on fait de la publicité pour des produits culturels en permanence. On vend un bouquin, en fait, quand on photographie un écrivain, on vend le livre. Mais on n'a plus ce côté rencontre personnelle, enfin, de moins en moins, quoi. Mmh. C'est un peu le problème.
Et puis sur l'exercice même de la photo, vous dites « je cherche à voir ce que les autres ne voient pas ». Cet arrêt, est-ce que c'est aussi parce que d'autres se sont mis à voir comme vous, peut-être ?
Ouais, ça s'est un peu démocratisé avec le numérique, oui. C'est-à-dire, c'était marrant quand j'étais tout seul photographe dans la bande de mes potes et qu'on partait, on sortait, on rentrait à 6 du mat, complètement bourré. Moi, j'avais toujours mon Hasselblad planqué quelque part dans un sac en plastique. J'étais le photographe. Donc, je pouvais immortaliser des moments, mais c'était fait avec un sacré appareil, quoi. C'était des vraies belles photos. Puis j'étais le seul, quoi. Aujourd'hui, tout le monde a son smartphone. Et ça n'a plus de sens, quoi. Ça s'est un petit peu dilué.
Alors, on retrouve le passionné que vous avez été de la photo quand vous parlez des portraits, comme vous êtes en train de le faire. Pour vous, un portrait, c'est avant tout un face-à-face entre deux émotions, deux sensibilités, deux esprits qui se cherchent, je vous cite. Ce qui rappelle étrangement un autre photographe. Écoutez Robert Doisneau parler lui aussi de séances photo.
Regardez, regardez, regardez. L'ivresse, hein, jusqu'à en être complètement sous de regarder. Oh, je pense bien. Vous savez, quand une journée de balade, puis le matin, jusqu'à la tombée de la nuit, avec le petit arrêt dans un bistrot pour manger un sandwich, quand vous avez fait une ou deux photos dans la journée, c'est fou. Alors, le moment du déclenchement, là, c'est vraiment, on est très tendu. Parce qu'on est pris par le truc en disant, je vais la rater, je vais la réussir, je vais la rater. Toc, elle y est. Ah, je suis passé un peu à côté. Ouh, enfin, je crois qu'elle est bonne. Oui, ça, c'est... Il y a un rythme brusque, comme ça.
L'ivresse de la photo, vous la ressentiez aussi, comme Robert Doisneau ?
Ah oui, complètement. Oui, c'est cet état de grâce, quoi. On avait l'impression qu'après, voilà, on pouvait arrêter. Et puis, ce qui était bien avant le numérique, hein, je critique pas trop le numérique, hein, je veux pas non plus. Mais disons qu'il y avait quand même un truc qui n'existe plus, c'est qu'on savait pas ce qu'on avait fait. On revenait à la maison avec son appareil, ses pellicules remplies comme enfanté, enfin ensemencé. Hein. C'était magique, quoi. Et puis après, on allait dans le labo les développer. Et tout ça prenait du temps. On avait le temps d'avoir
douter,
l'émotion, quoi.
De douter, de réfléchir.
Ouais,
Robert Doisneau, que vous admiriez infiniment, que vous avez rencontré, qui a fait des photos de vous floues.
Ouais.
Alors, je vous rassure, il m'est arrivé la même mésaventure. J'ai été photographié par Doisneau et pareil. Vous voyez, il n'y a pas le point.
Merde.
Donc, peut-être que c'était la fin et que.
Ou alors c'était un révolutionnaire.
C'était volontaire, non ?
Ouais. Bah, d'ailleurs, je l'ai dit dans le livre, j'ai dit, ça se trouve, il le faisait exprès.
Qu'est-ce que vous avez ressenti en vous retrouvant à votre tour dans la position du modèle, vous ? Parce que vous parlez du photographe, du point de vue du photographe, mais il y a le point de vue du modèle. Être photographié, c'est toujours quelque chose d'étrange quand vous êtes face à un photographe qui vous dit posez ou ne posez pas, ou essayez d'être naturel. On n'est jamais naturel.
Jamais, jamais. Mais déjà, en autoportrait, j'étais pas naturel. Enfin, moi, je comprends les gens qui veulent pas être pris en photo. Ce que je n'aime pas, c'est quand on nous donne rendez-vous et qu'on nous embête une fois qu'on y est en refusant de jouer le jeu. J'adorais les gens qui refusaient, les mancets, tous les gens qui se cachent et qui refusent d'être pris en photo. Ça, j'adore. Moi, je fais toujours la même tête. J'essaye d'avoir l'air comme tout le monde. Hein. Ce qu'il n'y a pas en littérature, dans l'autoportrait littéraire, enfin, on se livre complètement. On est plus proche de l'analyse, hyper honnête. Mais en photo, non, je fais toujours la même tête. Et puis, je maîtrise trop, quoi. Je sais exactement ce qu'ils font. Mais j'aime bien les voir travailler.
Enfin, ceci dit, Antoine balance sur le flou. J'ai en ma possession, je peux le prouver, et les diffuser à n'importe quel moment, une très belle collection de photos réalisées par Antoine Decaune, d'Alex Turner, mon idole, et moi-même. Tout est flou, en fait.
Non,
la quasi-totalité.
Allez-y, balancez.
Il a plagié Doisneau.
Je balance.
C'est quoi, c'est des menaces?
C'est un petit style Doisneau, peut-être.
Mais c'est quoi, c'est des menaces?
Ouais, clairement, ouais.
Vous menacez,
oui, tout à fait. Oui, Antoine Decaune.
Allez-y, balancez les
photos. Je vais les balancer.
Charline Roux.
C'est comme ça.
Bon, et notre invité, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là, lui? Vous voulez bien enchaîner, s'il vous plaît?
Vous voulez que j'enchaîne également?
Oui,
bah, je continue.
Oui,
je me moquais gentiment dans le portrait de cette manie qu'ont les photographes amateurs de poster des photos de leurs pieds. Mais vous, le tout premier conseil qu'on vous a donné pour vous exercer, un conseil d'Éric Mullet, c'est photographie tes pompes. C'est pas si mal, finalement, pour s'exercer.
Mais oui, le quotidien, oui. Mais avec des vrais appareils, avec une technique, avec une maîtrise de la lumière, pas un truc au hasard avec des filtres sur Photoshop, quoi.
Et alors, le deuxième conseil que vous a donné ce même photographe, c'est ferme ta gueule et ouvre ton diaphragme. Alors, certes, c'était pour faire des images de nuit, mais vu ce que vous racontez dans le livre, ça aurait aussi pu être un conseil de vie, finalement. Ferme ta gueule et ouvre ton diaphragme.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est un maître zen.
Pour faire des t-shirts ou des badges, hein.
Et ouvre tes chakras, oui.
Un mantra.
Jean Lussieff, un autre grand portraitiste, disait qu'il n'y a pas de photo sans désir. Vous vous souvenez, vous avez fait un portrait de moi il y a quelques années.
Oui.
Vous m'avez désiré.
Alors pas moi, mais ma copine de l'époque. Je vous en ai beaucoup voulu.
Ah oui.
Oui. J'ai même fait des cauchemars avec vous.
Non.
Oui. J'avais 25 ans à peu près, et ma copine était amoureuse de vous.
Non.
Mais oui.
Mais où est-elle? Mais où est-elle?
Je ne donnerai pas son nom.
Ce petit instant gênant était sponsorisé.
Oui, je suis très troublé. On va en parler. Bon, toute façon, est-ce que vous savez faire ça, Franck Courtès? Ah, il est pas mal. Oh, ça sent sa répétition, ça.
Ouais, dans la bagnole,
ça sent sa répétition. Bien. Bon, c'est pour lancer les pop news.
Vous aimez manger, vous aimez les dessins animés, vous allez adorer GastronoGeek, 37 recettes inspirées de dessins animés au menu, la mud pie de Tante Polly dans Tom Sawyer, les nuggets de poulet sauce Szechuan de Rick et Morty, les onigris de Pierre, le dresseur de Pokémon, le bœuf miso du bouleau blanc de Goldorak, le spécial Samy, un sandwich tout droit tiré de Scooby-Doo, le monstre au plante rôti de Jace et les conquérants de la lumière, et même le Krabby Patty Burger de Bob l'éponge. GastronoGeek, c'est rigolo, ça a l'air drôlement bon, et c'est signé Thibaut Villanova et édité chez Hachette Heroes.
Un film qui fait peur, avec une comédienne qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça s'appelle The Little Stranger, l'histoire du jeune docteur Faraday, appelé en 1947, lors d'un été particulièrement long et chaud, au chevet d'une patiente vivante où sa mère fut employée autrefois. De la famille RS, chez qui il se rend donc, il ne reste que la mère, son fils et sa fille, et ils sont hantés par quelque chose de bien plus effrayant encore que le déclin de leurs finances. Et Madame RS est incarnée par Madame Rampling, raison de plus d'être intriguée.
Why don't you tell me what's going on?
You wouldn't believe me.
Mother, this is Dr. Faraday. How did you find the patient?
He's under the weather. It's war shock.
They brought Caroline home to nurse him.
I've heard they were troubled.
Very hush-hush about it.
A long time ago.
Who's the child here?
What are you doing here?
Susan died before I was born.
The Little Stranger de Lenny Abrahamson avec Charlotte Rampling, que j'aime, et Donald Gleason. C'est bientôt sur les écrans.
Coup d'envoi aujourd'hui du Festival du film de Cabourg. Et oui, c'est l'ouverture des 32e journées romantiques. Oui, le Festival Normand est dédié au long métrage avec de la meur dedans. On pourra y croiser Tahar Rahim pour le film Joueur, signé Marie Monge. Alex Lutz y présentera son film Guy. Et grand moment en perspective aussi, avec les présences de Benoît Poelvoorde et Édouard Baer, présents pour l'adaptation de Raoul Taburin par Pierre Godot. Un prix spécial sera remis à cette occasion au dessinateur Sampé et les Swans d'Or seront remis dimanche. Cette annonce était intégralement énoncée sous le contrôle de la mafia camembert incarnée en régie par notre rédacteur en chef élevé à la crème, Aurélien Esvan.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine Decaune.
Alors je tiens à dire ici publiquement que la réputation de Cabourg est très surfaite, alors qu'à 18 kilomètres de là brille le joyau, le vrai joyau de la côte fleurie, Trouville sur mer. Bien, Franck Courtès, avant d'accueillir Miel de Montagne, écoutons-le avec le morceau « Pourquoi pas ».
Pourquoi pas?
Pourquoi pas? C'est un morceau signé Miel de Montagne qui vient de faire son entrée dans le studio de Pop Pop Pop. Bonjour Miel de Montagne.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur Emily.
Monsieur de Cône.
Bon, ah, ça va, ça me plaît beaucoup ça. Miel de Montagne, Franck Courtès, Miel de Montagne.
Bonjour.
Voilà, Charline aussi, Miel de Montagne.
Bonjour.
Pourquoi Miel de Montagne? Est-ce que vous aimez le miel et la montagne peut-être?
Ouais, effectivement, il y a un rapport avec ça. Mon oncle fait du miel en Haute-Savoie. Et du coup, quand j'ai...
Heureusement qu'il ne fait pas du reblochon.
Ouais. Bah, le miel, c'est plus sympa quand même, effectivement.
Et donc, vous avez choisi ça comme nom de groupe?
Ouais, ouais, carrément. Ouais. J'ai pris ça le moment où j'ai fait le premier morceau de l'EP. Fallait que je mette un nom sur cette musique. Et à ce moment-là, ouais, il y avait Spo qui était pas loin de moi. Donc, je me suis dit, bon, je vais marquer ça, histoire de le trouver pour plus tard. Et puis, après, ça a fait sens. Je me suis dit, en fait...
Ça donne envie d'y goûter, de toute façon.
Oui, voilà.
D'accord.
Hein. Petit côté résolution de Usual Suspect, quand même. J'ai pris l'objet qui est à côté de moi, j'ai pris le premier nom et...
Ouais, ma mère me dit souvent que c'est comme les dadaïstes à l'époque, qu'elle aime bien que... Elle voulait que je le dise d'ailleurs, donc c'est fait.
C'est cité, dadaïste, c'est fait.
C'est fait.
Alors, Miel de Montagne, vous êtes un groupe électropop, tout frais, à vous tout seul, car vous êtes tout jeune, vous n'avez que 23 ans, et vous vous apprêtez à sortir votre premier EP, Petit Garçon, dans 2 jours. Est-ce que vous pouvez nous donner la recette de votre miel?
Alors, la recette de mon miel, c'est...
Les ingrédients.
Je suis rentré vivre chez mes parents, donc j'ai continué à faire cette EP dans ma chambre. Je suis sur mes machines et voilà, j'allume l'ordinateur. Je fais des loops avec les boîtes à rythme, les synthés. Et quand la loop, toute la journée, je peux l'écouter sans mourir de...
D'ennui, de folie.
De folie, oui, voilà. Là, à ce moment-là, c'est validé et je continue, j'en fais une chanson.
Vos inspirations?
Mes inspirations, il y en a beaucoup. En ce moment, je suis dans des inspirations des plus grands pour le live. J'ai beaucoup la tête dans le live où je vais faire plein de concerts. Et donc, forcément, des gars comme Michael Jackson ou David Bowie qui ont fait que la musique...
La barre est haute.
Voilà, la barre est très haute, mais c'est des gens qui scéniquement m'inspirent beaucoup parce que ça me fascine. C'est tellement fou que j'en prends des inspirations. Mais même Mathieu Chedid, par exemple, qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais petit, je suis allé voir pas mal de ses concerts, donc j'en ai des souvenirs assez marquants, assez forts. Et ça m'a inspiré. Et j'ai l'impression que ça ressort aujourd'hui.
Vous n'avez pas peur avec ses fourches, là, sa grosse mèche et ses lunettes
Mais on parlait de Mathieu Chedid encore.
Oui, bah oui.
C'est une drôle de description.
Bah non, il avait une drôle de tête, M.
Avec ses fourches.
Bah oui. Bon,
c'est pas la seule
scène
du démon,
lâche pas aujourd'hui. Allez-y.
Pour ce qui est de vos inspirations, vous chantez La vie simple, l'amour pour les filles et pour votre chien. 3 sources d'inspiration d'égale importance dans votre carrière.
C'est vrai qu'en ce moment, c'est les 3 principaux sujets. Quoi. Donc, ça se retrouve dans le pays. Oui. Et c'était quoi la question?
D'égale importance. Vous mettez tout sur le même pied d'égalité.
Ouais. Ouais, la vie simple, peut-être en priorité. Quoi.
D'accord, et les filles en 2. Et le chien en 3.
Allons-y comme ça. Allez.
Vous hésitez trop.
Franck Courtès, vous avez déjà photographié du miel de montagne? C'est une drôle de question. Hein.
J'ai arrêté le sucre il y a 1 an, donc de toute façon, j'ai plus le droit d'y toucher.
Ah bon,
mais je peux l'entendre.
On va pas s'entendre. Hein.
Ah non, mais justement, miel de montagne, est-ce qu'on peut l'écouter si on est diabétique, par exemple?
Ça pose un sacré problème. Non, tout le monde peut écouter miel de montagne. C'est fait pour tout le monde. Mais il y a du miel, peut-être sans glucose, quoi. Peut-être ça existe. Ouais. Ou peut-être je vais en inventer, quoi.
Ah oui.
Est-ce que vous êtes garanti sans pesticides?
Garanti sans pesticides, exact.
Alors, Pierre, pour continuer dans la métaphore, vous appelez Miel de Montal, vous êtes signé chez Pain Surprise. Vous êtes un peu le chanteur du goûter.
Oh.
Pas mal. Est-ce que tu peux te tartiner?
Faut un featuring avec un nom pareil sucré. Et...
Ouais.
On est au max.
Mais ça serait peut-être too much. Quoi.
Alors, Miel de Montagne, sur votre hippie... Ah, ça colle. Bref, sur ce hippie se trouve, pourquoi pas, la chanson que nous venons d'entendre. Et dans celle-ci, vous dites, toi, quand je t'ai vu, je me suis dit, pourquoi pas vivre tout nu. Alors, question simple, qui est ce toi?
Eh bien, justement, il est ça, c'est le public qui décide.
Ah.
Le public, et moi aussi, je peux le décider. Il peut changer, d'ailleurs. C'est beaucoup de fantasmes, mes paroles sont... Beaucoup de fantasmes dans cette phrase, et voilà. Vivre tout nu, il aurait pu... Ça a été ça à ce moment-là, mais ça aurait pu être autre chose, c'est plus une image, une projection, un rêve.
Qu'en a dit votre mère?
Elle l'a chanté, donc c'était validé.
Oui, c'est ça, parce que c'est le test, en fait. Hein.
Ouais, souvent, quand je fais de la musique dans ma chambre et que mes parents s'amusent à les rechanter après, j'ai une confiance qui s'installe où je me dis, bon, ça va.
Et votre mère chante.
Et elle chante sur l'EP aussi, oui. Oui, il y a un morceau où elle me dit, tu n'y connais rien, donc je me suis dit, autant le faire partager.
Autant
à
que
tout
ça
le
sache.
Monde.
Vous avez pratiqué la batterie pendant 14 ans pour finalement ne pas l'utiliser aujourd'hui. Est-ce qu'elle est définitivement sortie de la liste des ingrédients ou est-ce que vous pouvez y revenir à un moment ?
Pour cette EP, oui, en tout cas, elle est sortie. Je me suis recentré sur des boîtes à rythme un peu cheap, qui viennent un peu des années 80, etc. Où j'aime beaucoup ça puisque c'est vraiment en place. Et en tant que batteur, même après 14 ans de batterie, j'avais des légers déplacements rythmiques. Mais non, mais après, c'était une question de style aussi. Mais c'est vrai que de plus en plus, j'ai remonté en plus récemment ma batterie. Et de plus en plus, j'ai peut-être envie de rajouter, revenir un peu à cette forme acoustique, en tout cas de la batterie, à voir peut-être au prochain album.
Alors, Miel de Montagne, si mes informations sont bonnes, vous n'aimez plus trop jouer dans les clubs. Alors, je propose de vous emmener dans ma cave.
Ah
venez,
oui.
Venez avec moi. Attendez. J'arrive à l'ouvrir déjà,
Ça me fait peur ce que tu me dis. Ah, parce que souvent, dans les caves.
Ah, non, il n'y a rien à craindre. Attendez. Faut que je l'ouvre. Oh voilà. Et là, regardez. On est à la montagne.
Oh.
C'est fou, non ? Et vous savez qui j'héberge ici ? Eh ben des abeilles. Mais attention, élevées en plein air. Regardez. J'ouvre, elles sont juste là.
Ah, magnifique.
Vous avez vu le nombre un peu ?
Il y en a beaucoup. Ouais.
C'est dingue.
Effectivement,
hein
c'est.
Alors, surtout, elles ont une particularité. Pour faire un miel de qualité, elles sont élevées en écoutant de la musique.
J'espère que c'est pas des fans.
Parce que attendez pas encore.
Je suis allergique aux piqûres.
À des fans ?
Oui, des fans.
Non, c'est des abeilles mélomanes en pleine montagne. C'est quand même assez rare. Hein. Tiens, je vais vous montrer un exemple. Regardez. Hey, les filles, vous avez aimé le morceau d'Iggy Pop qu'on a joué tout à l'heure ? Vous avez vu, c'est fou, hein ? Attendez, regardez. Et vous voulez un petit maître Gims, les filles ? Ouais, bon. Et qu'est-ce que vous diriez d'un morceau de miel de montagne en live depuis la montagne de ma cave ? Ben voilà, hein ? Tout le monde en a envie. Miel de montagne, je crois que vous n'avez plus le choix. Après mon pop, ça va être à vous. Vous allez vous installer là, juste à côté.
Okay.
Allez-y, pendant ce temps-là, moi, je vais m'installer confortablement dans l'herbe pour vous écouter. Vous me faites un petit signe dès que vous y êtes et moi, je vous envoie un pop et c'est parti. Attention, les abeilles, m'approchez pas trop. Oui, attention et...
Ce slow à mon chien.
Dans la main, yeux dans
pour mon chien depuis la cave de France Inter en exclusivité pour Pop Pop Pop. C'était un morceau de miel de montagne. Venez nous retrouver à la table et je referme cette cave là tout de suite. Voilà. Me voici revenu par miracle en studio, c'est complètement dingue. Franck Courtès.
Vous montez très vite.
Bah oui, je suis surpris de tout du temps.
Vous êtes vif.
Franck Courtès, on a parlé avec vous depuis le début de l'émission, vous avez photographié plein de monde, vous avez photographié des musiciens, des écrivains, des hommes politiques. Qui était le plus agréable à photographier?
Le plus agréable, Jean-Louis Murat.
Ouais. Donc des musiciens?
Musicien. C'est-à-dire, en fait, c'est pas question de... Il n'y a pas des gens agréables, en fait, c'est des gens avec qui on s'entend bien tout de suite, quoi. On sent qu'il y a immédiatement un truc qui
résonne. Vous entendiez très bien avec Murat, vous étiez complètement murgé, c'était à New York.
Voilà. Non, la première fois, on buvait la tisane. Tisane, Reine des Prés, et puis non, il a failli même m'envoyer chier au début. Non. Non, mais en fait, c'est pas forcément les gens les plus agréables avec lesquels j'ai eu le plus de plaisir de travailler, mais Jean-Louis, oui, particulièrement, oui, beaucoup.
Et qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui que vous avez raccroché vos appareils, vous manque quelque chose?
Dans le métier? Pas grand-chose, en fait. Je crois que j'ai fait le tour. Je me suis bien amusé, j'ai pris tous les avions, j'ai été un peu partout. Non.
Bon, eh bien, place au mot.
Pas de regret.
Miel de montagne, non, vous ne serez pas photographié par Franck Courtès. Je vous vois la mine.
Malheureusement.
Oui, dommage, oui.
Vous serez peut-être mentionné dans son cinquième livre, ce qui, si j'ai bien compris, est peut-être. En cours.
Oui, mais ça sera pas. Je parlerai ni photo, ni musique. Donc,
Si ce moment vous a marqué, voilà. Sait-on jamais.
Vous faites des photos, Miel? Je vous appelle Miel, hein, je connais mieux maintenant.
Ouais, je fais des photos. Ouais. Des photos sur mon Instagram, mais aussi avec un Kodak. Pour des souvenirs des concerts. On faisait souvent des photos comme ça.
Très bien, merci à vous deux. Merci Miel de Montagne. Votre merci. EP Petit Garçon sort après-demain. Vous serez en concert un peu partout cet été. Les dates sont à retrouver sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Merci Franck Courtès. Merci d'être venu. La dernière photo s'est éditée chez Lattès et c'est recommandé par Pop Pop Pop.